Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau mug en ce mercredi. Je vous propose de commencer. Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 22 avril déjà et c'est le mug numéro 143. Je vais pas regarder mes petits nombres pour faire l'intro, donc c'est pour ça que j'étais un petit peu larguée. Donc j'espère que vous avez la forme, je suis ravie de vous retrouver. Je vois là qu'il y a déjà pas mal de monde dans la chatroom, vous me recevez bien, donc tout va bien. Écoute, Akageek, tu me demandes comment je vais, ben écoute, ça va, ça va bien, je suis contente de vous retrouver ce matin. Et Matt qui me dit « Ouf, j'ai cru que tu allais être en retard. Est-ce que c'est bon? Il est 8h02, je suis déjà à l'intro. Est-ce que tout va bien ?» Bon, ne paniquez pas, je vous propose qu'on commence par les news tech. Alors voilà, ben il y a pas mal de news ce matin, pas mal de news, certaines positives, certaines négatives. On peut pas l'éviter forcément avec le contexte actuel. On va commencer à voir les premières retombées négatives en termes de business sur certaines boîtes qui vont être évidemment largement bousculées. On va pas pour l'instant, cette semaine, on va pas parler de l'industrie touristique, hôtelière, etc. Mais on va parler de d'autres boîtes qui sont des boîtes de la tech, qui sont elles aussi impactées par les événements actuels. Voilà. Sinon, la musique d'Arnold et Willy pendant que tu travailles hier, bien. Écoute, j'ai pas entendu capturer l'instant. J'ai pas entendu. Je pense que c'était parce que j'étais en stand-up remote avec mon équipe, avec mon casque anti-bruit, pendant que Jérôme faisait son live. Donc, j'ai pas entendu le générique du live de 14h. Non, franchement, on s'organise plutôt bien, Jérôme et moi. On ne se perturbe pas mutuellement, moi étant dans le salon et lui, normalement, ici. Donc voilà, franchement, ça cohabite bien. je vous propose de commencer avec le premier article. Évidemment, mon iPad n'est pas prêt. Et ça y est, je viens d'avoir mon premier article. Donc, on va commencer par les mauvaises nouvelles. Comme ça, on terminera sur des choses un peu plus légères. Je vérifie mon programme. Ouais, on terminera sur des choses un peu plus légères. et on commence malheureusement sur les boîtes qui ont dû prendre des mesures, se séparer d'une partie de leurs employés pour pouvoir affronter la crise actuelle et à venir, parce qu'elle ne va pas s'éteindre du jour au lendemain au niveau des impacts business. Le premier projet qui est touché par la crise actuelle, c'est le projet Tor. Et oui, l'organisation qui a développé Tor, le réseau informatique superposé mondial et décentralisé, qui est aussi connu pour être une des portes du dark web, mais pas que, hein, voilà, il est, enfin voilà, c'est quand même un réseau décentralisé, très très connu, très très prisé, il n'a pas été épargné, hein, forcément par la crise. A priori, il va falloir prévoir de nombreux licenciements l'équipe va se recentrer. Donc, 13 personnes licenciées vont se séparer de 13 personnes et ils vont se concentrer sur garder une équipe de 22 personnes pour pouvoir maintenir à flot le projet sans complètement couler. Alors, c'est quoi le business model de Tor? Et bien, en fait, Tor peut exister, le projet peut exister grâce à une récolte de fonds, de dons. Hein. Donc le problème, c'est que dans ces périodes de crise, les dons pour ce type de projet vont diminuer parce que, un, les personnes, voilà, vous, moi, d'autres personnes, moi, pas, j'ai la chance d'être plutôt dans une situation stable, mais on a tous une certaine incertitude au niveau de la sécurité de l'emploi liée à certaines boîtes, etc., qui vont aller plus ou moins mal. Aux États-Unis, on peut voir qu'il y a eu une grosse augmentation du nombre de chômeurs, puisqu'on n'a pas la sécurité de l'emploi qu'on peut avoir en France aux États-Unis, pas d'emploi, pas les moyens du coup pour pour pouvoir soutenir des projets qui nous tiennent à cœur, pour pouvoir faire des dons. Donc il y a ce premier aspect-là qui impacte le type de projet comme Thor. Et il y a également le fait que si on a envie de faire des dons, on va peut-être avoir plus envie de faire des dons vers des organisations de santé. Voilà, pour soutenir justement la crise actuelle. C'est pas du tout une critique ou quoi que ce soit, mais c'est juste un changement de comportement où les gens, bah, du coup, voilà, leur focus, leur intérêt vont changer un petit peu et certains projets vont être justement mis en péril, comme le projet Thor. Voilà, donc c'est pas le seul hein, qui fait face à ce genre de difficultés. On va essayer de passer à travers certaines boîtes pour vous tenir au courant, à savoir que justement la société GoPro également, elle, est en difficulté puisqu'elle a dû se séparer de 200 employés hein, aussi. Donc on savait que c'était pas non plus au beau fixe côté GoPro, mais voilà, ça se confirme. Et évidemment, la crise de business à venir ne va faire qu'empirer le contexte et les risques pour certaines boîtes. Donc évidemment, bah, y a certains business qui prennent des mesures pour contrer et pour résister à cette période qui s'annonce très difficile. BX me dit oui, mais ça n'a pas forcément de rapport avec ce qui se passe. Oui, BX, enfin, à un moment donné, il faut prendre un petit peu de recul sur les événements qui sont en train de se passer et essayer de comprendre les liens possibles. Alors, voilà, on essaye d'extrapoler un petit peu, mais ce qu'on sait, et ça, on peut pas l'ignorer, c'est le contexte économique présent et surtout futur s'annonce très 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 compliqué pour les mois, même l'année à venir. Ça veut dire notamment, c'est pas le moment de faire une levée de fonds. ça va être très très compliqué de pouvoir déclencher des levées de fonds. Donc ça veut dire beaucoup de start-up qui vont être en difficulté. On a notamment Deliveroo hein, en Grande-Bretagne qui est en grande difficulté. La Grande-Bretagne qui s'était opposée notamment à la participation en capital d'Amazon et qui finalement a donné le feu vert pour éviter que Deliveroo ne coule. Donc si, en fait, le contexte actuel va évidemment toucher beaucoup le secteur économique, le touche déjà et va le toucher dans les semaines, les mois et l'année à venir. Et donc, du coup, il faut se préparer à cette période, entre guillemets, de sécheresse économique pour pouvoir résister à cette période et ne pas couler. Donc si, il y a quand même un lien, quand même, léger. Voilà, après évidemment, selon l'état de la boîte avant l'événement, voilà, la crise sanitaire qui se passe, bah forcément, il y en a qui étaient plus solides que d'autres, quoi. BX, oui, tout à fait. GoPro, bah, c'est ce que j'ai dit, hein. GoPro, elle est très mal. En effet, il y a l'état de la boîte avant la crise qui peut favoriser plus de dangers ou pas, voilà. Donc en effet, on avait déjà mentionné que GoPro n'était pas forcément en très bonne santé. Conséquences pour les prix à venir des produits tech. Mr. Wilcol, on en parlera un petit peu. On va faire le lien dans un article suivant. Donc garde ta question, ne l'oublie pas et on y revient avec un article, notamment avec Apple, qui sera intéressant justement. Autre impact justement de cette crise, c'est un autre service qui n'allait pas très très bien déjà. Excusez-moi, le focus, faut pas que je bouge trop. C'est du côté de General Motors et son service de partage de véhicules qui s'appelle Maven, ils avaient déjà pris la décision mi-2019, pardon, de fermer leur service de partage de voitures Maven dans pas mal de villes. Et ils, notamment, c'était... Ils avaient décidé de la fermer... dans plusieurs villes, notamment... Boston, Chicago, New York, et Maven continuait de fonctionner dans les villes du type Détroit, Los Angeles, Washington, DC et Toronto, donc principalement, on va dire Canada et États-Unis, et là, officiellement, ils ont dû évidemment arrêter le service Maven à cause de la crise sanitaire, parce que ça... C'est pas forcément le meilleur contexte pour partager des véhicules, vous vous en doutez bien. Et donc, du coup, coup, ils ont pris la décision, ils ont informé leurs clients que le service Maven ne redémarrerait pas. Donc, ils s'arrêtent du jour au lendemain. Mais en même temps, ils s'étaient déjà arrêtés à cause de la crise sanitaire. Il restera fermé définitivement puisque General Motors va devoir se concentrer sur ses points forts pour traverser sereinement la crise. Voilà, donc c'est la suite. Là, encore une fois, c'est pas le coronavirus qui a enterré Maven. C'était déjà un petit peu mal parti pour Maven puisqu'ils avaient réduit leur impact géographique. Et là, ils confirment justement le retrait du service. Autre boîte qui est touchée par la crise mondiale, c'est Kickstarter. Alors, encore une fois, là, c'est aussi lié, c'est une suite d'événements, c'est-à-dire que c'est pas du jour au lendemain qu'il y a eu une baisse, c'est des signaux qui ont été décelés, qui vont être aggravés par la crise économique. Ce qui se passe, c'est que Kickstarter a informé avec une communication interne, un message interne à ses équipes. Le CEO a informé qu'il y avait une baisse de projets actifs de 35% année après année. Sans signe très très clair de croissance, de rebond en termes de projets ouverts, de nouveaux projets ouverts. Et ça, c'est un très mauvais signe, évidemment, pour la plateforme Kickstarter, parce que moins de projets il y a, moins il y a de chances que les personnes soutiennent aussi, puisqu'ils trouveront potentiellement moins leur compte. Et donc, évidemment, c'est un très, très mauvais signe. Il y a notamment... Ils sont notamment en train de discuter de potentielles séparations avec certains employés. C'est pas encore confirmé. Il y aura notamment aussi des réductions de dépenses à prévoir. Ils vont aussi réduire les salaires du management et ils vont limiter les nouvelles embauches et être beaucoup plus sélectifs pour les nouveaux postes ouverts, évidemment. Voilà. Donc, c'est également pas forcément le meilleur moment. Enfin... Voilà, Kickstarter, encore une fois, comme tu le disais, BX, il y a des critères externes à la crise qui étaient là au préalable, voilà, mais la crise qui s'annonce économique va en plus confirmer que les prochains mois et la prochaine année ne sera pas positif côté économique et donc que ces boîtes-là, et c'est important qu'ils prennent des mesures en amont pour passer à travers cette crise de manière un peu plus sereine dans la mesure du possible. Et là, pour le coup, Kickstarter, qui avait vu des mauvais chiffres, des chiffres inquiétants en termes de projets ouverts et actifs sur la plateforme, bah voilà, prend des mesures pour pouvoir résister et soutenir les créateurs et les projets, non pas que pendant la pandémie, mais également dans les années à venir et après. Et en fait, c'est ce qu'ils disent, là, c'est un petit peu compliqué pour les projets, pour mener à bien les projets sur Kickstarter, parce que du coup ça se fait à distance, ce qui est pas forcément facile et pas forcément prévu par les équipes qui faisaient fonctionner les projets Kickstarter de pouvoir gérer la campagne à distance, donc évidemment ça impacte, et encore une fois comme je vous le disais tout à l'heure pour le projet Thor, les personnes, les donateurs vont peut-être plus vouloir rediriger leurs dons pour soutenir des initiatives liées à la santé avec ce contexte que pouvoir s'acheter le dernier trépied à la mode ou les dernières chaussures avec lesquels tu peux marcher sur un sentier en terre ou dans l'eau, etc., etc. Donc, il y a un changement de priorité dans les gens liés au contexte actuel. Voilà, donc du coup, Kickstarter se prépare également. Autre information, c'est du côté de Patreon. Alors, Patreon, étonnamment, ils ont vu plutôt une croissance, notamment dans les trois premières semaines de mars, en termes de dons. Alors, attendez, je vérifie que je vous dise pas de bêtises. Parce que je l'ai lu tout à l'heure. Voilà. Patreon a vu une croissance en termes de nouveaux utilisateurs dans les trois premières semaines de mars, mais ils décident quand même de se séparer de 13% de leurs employés, ce qui est quand même conséquent pour cette boîte-là. En fait, encore une fois, là, il s'agit malgré les chiffres qui sont plutôt positifs, ils ont aussi vu des signaux, c'est-à-dire qu'ils ont vu un signal qui était notamment des créateurs qui quittaient la plateforme, puisqu'ils ne peuvent pas maintenir leurs revenus juste avec Patreon, avec le contexte économique qui s'annonce. Donc il y a eu ça, mais encore une fois, c'est pas parce qu'il y a eu certains chiffres positifs que les mois et les semaines à venir ne vont pas s'annoncer difficiles. Donc Patreon a fait le choix stratégique de se recentrer et de limiter encore une fois les coûts. Ça reste une décision très difficile. Donc là, ils nous disent, Patreon, justement, il y a eu un communiqué qui informe que depuis les dernières 6 semaines, Patreon a vu une croissance avec des nouveaux créateurs qui se lançaient sur la plateforme et notamment une croissance aussi dans le soutien des gens qui comprennent dans quelle situation ces créateurs indépendants sont et le danger que ça représente pour eux, hein, le danger de devoir abandonner le projet revenir à peut-être un boulot, ne pas pouvoir continuer de manière indépendante leur projet. En mars, ils informent notamment qu'ils ont vu 50 000 nouveaux créateurs se lancer sur la plateforme avec un revenu 60% plus haut que dans les mois précédents. Encore une fois, là, c'est une croissance des nombres qui sont arrivés très dernièrement. Donc, en effet, Patreon est dans une position financière plutôt solide, mais ça reste très, très incertain, en fait. Avec le contexte économique qui va être difficile, ça peut être juste un rebond momentané de solidarité, ce qui reste formidable, évidemment, mais le problème, c'est que ce type de créateur, Jérôme, enfin, Naotech, aussi dépend des dons sur Tipeee, et on a vu aussi une croissance des dons au début de la crise, mais le problème, c'est que cette crise va durer, et certaines personnes ne vont pas pouvoir maintenir leurs dons, et c'est sur le long terme que le risque est vraiment, vraiment présent. Et donc, du coup, ils prennent des mesures, évidemment, pour limiter les risques dans la mesure du possible. C'est, en effet, difficile de se projeter dans le futur. Je vois certains commentaires, justement, dans la chatroom. Yves, on a l'impression que la crise est aussi la bonne excuse. Tu peux le voir comme ça. Je trouve que c'est... Oui, enfin, tu peux choisir de le voir comme ça. Je pense que c'est un peu minimisé. L'impact économique que va avoir cette crise sanitaire, il y a des signaux qui sont très clairs. Faut pas oublier qu'il y a tout un pan. Je disais qu'on n'allait pas parler de l'industrie du tourisme ou l'industrie hôtelière, etc. Enfin, c'est fermé, hein, et c'est pas prêt de réouvrir en fait. Les bars, les hôtels, le fait de voyager. Dans les semaines et les mois à venir, ça va rester compliqué. Et plein de boîtes sont très en danger. Et donc, qui dit certains secteurs très impactés, ça va faire un effet domino aussi sur le pouvoir d'achat de la population et la capacité à soutenir, etc. Donc bon, il y a quand même des signaux très clairs. Il ne faut pas y voir juste de la mauvaise foi ou une opportunité de réduire les coûts au niveau des boîtes. C'est des décisions qui sont difficiles à prendre. Il ne faut pas juste dire que le patron est méchant tout le temps, quoi. C'est un petit peu caricatural comme manière de penser. Il y a un vrai recul et il y a un vrai risque économique. Il est déjà là Voilà, entre essayer de maintenir un emploi pour certains employés et faire couler la boîte et mettre tout le monde dans la panade, il y a un choix stratégique à faire, quoi. Voilà. Donc voilà pour Patreon. Et dernière boîte que je voulais mentionner ce matin en termes d'impact aussi, et encore une fois, ce n'est pas que lié à la crise sanitaire, hein, tout à fait, c'était déjà dans une situation compliquée au préalable, c'est Casper. Et oui, la société qui est rentrée récemment en bourse, qui a fait son IPO récemment, a informé qu'ils allaient se séparer de 21% de leurs employés. Je sais que c'est un petit peu inhumain de parler des nombres d'employés en pourcentage parce que ça déshumanise pas mal, mais c'est les chiffres qu'on me donne. Donc ça veut dire 78 employés qui vont partir de chez Casper. Casper justement va réduire ses opérations largement en Europe pour se recentrer sur l'Amérique du Nord. Voilà, et donc du coup, on peut s'attendre voilà, à la fin de l'année de voir beaucoup moins Casper en Europe. Et ça va permettre de d'économiser entre guillemets 10 millions par an pour pouvoir se recentrer sur la profitabilité de Casper aux États-Unis, enfin en tout cas en Amérique du Nord. Voilà, donc une déclaration du CEO, c'est « We are making a series of difficult decisions to preserve the long-term resiliency and flexibility of the company ». Là, encore une fois, voilà, il nous dit, je vais vous faire une traduction un peu à la volée, on doit faire des choix, une série de choix, de choix difficiles pour préserver la résilience sur le long terme et la flexibilité de la société. Encore une fois, on a bien compris que c'est avec le contexte économique qui arrive, que ça va être d'autant plus compliqué. D'autant plus compliqué pour Casper qui ont, entre guillemets, raté leur entrée en bourse, leur IPO, à savoir que le prix initial des parts de Casper a été fixé à 12 dollars. Et qu'aujourd'hui, enfin en tout cas, oui, récemment, au prix After Hours mardi, le prix de l'action était à 5,91$, donc bien loin des 12$ d'origine de l'entrée en bourse, ce qui est évidemment mauvais. Voilà, même s'il y a eu des bons chiffres au premier trimestre 2020, voilà, il y aura quand même un contexte difficile économique dans les mois à venir. Et en effet, Casper, c'est les matelas en ligne que vous pouvez vous faire livrer. Voilà, voilà. Casper, c'est pas le petit fantôme, c'est la société de matelas en ligne. Voilà pour les différentes... C'est certaines boîtes, évidemment, je ne vais pas mentionner toutes les boîtes, mais je voulais quand même faire un petit tour d'horizon des sociétés qu'on connaît plus ou moins bien, plus ou moins proches de la tech. Du coup, je trouvais ça intéressant de vous donner un petit peu cette vision. Ça va être important de voir un peu quels sont les impacts et de voir comment l'industrie tech, notamment, sera touchée. Et on continue avec Amazon cette fois-ci. Amazon qui, justement, dans ce contexte économique difficile pour tous, mais pas pour eux, puisqu'on en a parlé la semaine dernière, Amazon, eux, se frottent les mains quand même en termes de business, puisque tous les business où ils se sont lancés augmentent, puisque ils sont, les gens vont se reposer beaucoup plus sur le e-commerce, donc évidemment se reporter quand même beaucoup plus sur Amazon, croissance des ventes. Les gens vont passer plus de temps à regarder des programmes vidéo, du streaming, etc. Donc évidemment, Amazon Prime Video, Twitch, c'est bien, ça marche très bien, il n'y a qu'à voir. Jérôme, qui avait toujours fait une résistance à Twitch, fait des lives maintenant sur Twitch. Donc Amazon, encore une fois, se frotte les mains parce que Jérôme a rejoint Twitch, entre autres. Il y a également le service cloud d'Amazon, qui là également est là pour soutenir les différents services, etc. Et donc, il va avoir une croissance également sur Amazon AWS, hein, le service cloud d'Amazon. Mais de l'autre côté, parce que eux vont très bien, ils ont décidé de drastiquement couper ou limiter l'affiliation d'Amazon. Affiliation, vous connaissez le principe, c'est que lorsque vous achetez sur Amazon, vous cliquez sur un lien. Un lien, par exemple, sur un site internet qui va vous parler de différents produits, etc., et qui va vous donner des liens vers les fiches produits sur Amazon. Et en fait, ça s'appelle un lien d'affiliation, c'est-à-dire que vous ne payez pas plus cher, mais en fait, Amazon va reverser un pourcentage de commission d'apporteur d'affaires au site internet qui avait posté ce lien. Et ça permet de faire vivre pas mal de petits business, de médias. Il y a pas mal de business hein, qui vivent et qui sont soutenus par l'affiliation. Donc ça peut être des sites internet, des médias, des youtubeurs, voilà, des créateurs, etc., qui vont pouvoir avoir une partie de leur rémunération gérée et en tout cas soutenue par les liens d'affiliation. Et donc évidemment, c'est une très très mauvaise nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle pour Naotech, mais encore une fois, là, pour l'instant, ça touche a priori les États-Unis. Ça a été mis en place à partir du 21 avril, donc hier, et ça touche les États-Unis. Nous, on n'a pas encore reçu de mail, etc., mais on a évalué l'impact sur les revenus de Naotech à entre 10 à 20% en moins en termes de revenus pour Naotech. Donc c'est quand même assez conséquent. On va se préparer évidemment à ça, mais c'est pas forcément le meilleur moment pour Amazon de faire ça. Voilà, surtout que eux ils ont une croissance, donc c'est un petit peu difficile à avaler. Mais bon, encore une fois, c'est un choix quand on dépend comme ça d'un service. On est un peu pieds et mains liés avec leur politique. On le verra après aussi avec notamment les politiques des 30% chez l'App Store et le Play Store. On peut aussi évidemment trouver ça injuste, mais en fait, on dépend de cette plateforme-là, quoi. Les applications qui veulent proposer des abonnements, etc., vont dépendre de cette distribution via ces stores officiels, et ces médias ou ces services, ces créateurs, etc., vont dépendre notamment d'Amazon, qui est quand même l'acteur dominant en termes d'affiliation sur le marché. Voilà, donc au niveau du changement, ça va des fois vraiment baisser de plus de 50% en termes du pourcentage d'affiliation. Donc par exemple, on a notamment sur les produits du type les outils, enfin tout ce qui est travaux, ameublement, jardin, etc., et produits animaliers, la commission va passer de 8% à 3%, donc là, plus de 50% de baisse. On va avoir également pour tout ce qui est casque, audio, produits de beauté, instruments de musique, etc., qui vont passer de 6% de commission à 3%. Et puis, on va avoir également tout ce qui est courses, produits de sport, produits de bébé, produits d'extérieur, outils, etc., qui vont baisser de 3 à 1%. Voilà. Donc c'est quand même un impact assez important, surtout quand on voit un petit peu le monopole d'Amazon sur ce type de plateforme. Donc n'hésitez pas, en effet, pour nous soutenir, les liens d'affiliation, petit message du coup, promo, j'en profite, ça ne vous coûte pas plus cher, mais en tout cas, nous, ça nous soutient vraiment, et c'est assez facile, vous mettez le lien en favori, même sur votre navigateur, et quand vous avez besoin d'acheter un produit Amazon, vous cliquez dessus, et c'est fait, voilà. Merci pour le message Naotech Live de partager l'URL d'affiliation. Pour la news. Est-ce que j'ai tout dit ? Oui, alors Amazon est quand même touché négativement pour certains services, quand même, il faut le mentionner, hein. Notamment ses services de livraison de produits frais, Amazon Fresh, est impacté négativement, et maintenant il y a une liste d'attente pour pouvoir l'utiliser, et il y a également certains produits qui sont en pause, comme le Prime Pantry, pour commander en grosse quantité des biens, enfin des choses non périssables et pour la maison, voilà. Donc il y a quand même eu des aspects qui sont plus difficiles pour Amazon, mais bon, il y a pire. Voilà pour Amazon, il est 8h29, je continue, je suis encore dans les temps. On enchaîne, justement, mince. On parlait des App Store, du Play Store, etc., qui prennent un petit peu en otage, entre guillemets, ou en tout cas qui imposent leur pourcentage pour tout ce qui est transactions qui passent via les applications et qui doit passer sur les App Store et Play Store pour prendre un pourcentage de ces transactions via les applications. Et donc, évidemment, c'est l'Apple Store et le Play Store. Et là, on avait largement parlé du mouvement et du coup de gueule d'Epic vous savez, les créateurs du jeu Fortnite, qui avaient refusé du coup de mettre à disposition sur le Play Store de Google le jeu Fortnite pour éviter de passer par les 30% de commission dont se sert au passage Google pour le Play Store. Ils avaient accepté quand même de le faire sur le... Ça c'est assez rigolo, hein. Sur l'Apple Store. En fait, ils disaient que c'est illégal pour une société qui a un monopole tel que Google, puisqu'à l'échelle mondiale, Android est quand même plus dominant qu'Apple, il faut quand même le rappeler, que iOS. Et donc du coup, ils avaient dit c'est illégal pour une société qui a une dominance sur le marché telle d'imposer 30% de commission sur les transactions sur les applications. Donc ils s'étaient élevés contre cette pratique et ils avaient mis un lien de téléchargement qui ne passait pas par le Play Store. Et ils avaient encouragé tout le monde à télécharger le jeu via ça. On avait vu pas mal de problèmes là-dessus, hein, puisque du coup certains liens menaient vers des installations de malware, etc. et mettaient en danger certains utilisateurs qui sont pas au fait de où télécharger correctement l'application sans télécharger des choses malicieuses, etc. Et donc là, ils font un rétropédalage du coup et ils mettent à disposition sur le Play Store justement le jeu Fortnite. Ça y est. Donc on sent, c'est vraiment à contre-cœur évidemment qu'ils mettent à disposition l'application, mais en fait ils disent, ils ont fait une annonce et ils disent notamment que Google va pénaliser, entre guillemets, ouais c'est ça, va pénaliser les applications qui sont téléchargées en dehors du Play Store via des mesures techniques et économiques comme déclencher des pop-up, des petites pop-up de sécurité qui vont dire attention, c'est pas sécurisé, est-ce que vous êtes sûr que vous voulez télécharger, attention, il y a une mise à jour, ne mettez à jour que des applications qui ont été vérifiées, etc. Bref, ils font tout pour faire peur aux personnes lorsqu'elles ont téléchargé, qu'elles essayent de télécharger ou mettre à jour une application qui n'a pas été téléchargée sur le Play Store. Excusez-moi, j'ai l'application mail de Jérôme qui pop pendant le live. Tout va bien. voilà, donc du coup, il y a des mesures. Bah, en effet, Google, qui a été pas mal critiqué sur le manque de sécurité sur son Play Store, bah, du coup, essaye de faire attention aux applications tierces qui ne passent pas sur son Play Store pour encourager les gens à passer, évidemment, par leur store. Donc, il y a un avantage, évidemment, économique pour Google, hein, de obliger les développeurs à soumettre leur application via leur store officiel. Et puis, il y a aussi une notion de sécurité qui est vraiment légitime. Mais du coup, voilà. Donc, Epic cède. Après 18 mois de coup de gueule, finalement, ils ont décidé de mettre Fortnite officiellement sur le Google Play Store. Voilà. Donc pour ceux qui n'osaient pas télécharger le jeu, vous pouvez le télécharger sans crainte désormais. Je vous propose d'enchaîner avec quelques petites rumeurs de l'iPhone. Je fais une petite pause. Louis Armand, merci, clique droit sur l'app dans le dock et quittez, sinon ça va repop. C'est ce que j'ai fait. Hein. T'inquiète, c'est gentil, mais j'ai un Mac aussi quand même. C'est un bug de Catalina. Ah, ça par contre je savais pas, parce que moi j'utilise pas l'application mail officielle d'Apple puisque j'utilise Gmail et du coup j'ai pas lié mon compte, mais je savais pas que c'était un bug de Catalina. Par contre je trouve ça étrange en effet. Merci pour l'info. Voilà, on enchaîne avec les rumeurs de l'iPhone. Qu'est-ce qui se passe ? Donc là, ça vient a priori de l'analyste Ming-Chi Kuo, qui est bien connu, qui fait partie de TF International Securities, qui est bien connu parce qu'il est connu pour faire des révélations, ou en tout cas des prédictions, entre guillemets, vraies, ou avoir des sources de rumeurs assez fiables. Voilà, donc c'est intéressant quand même de regarder un peu ce qu'il nous dit pour l'iPhone 12. Ce qu'ils nous disent, c'est que déjà ce qu'on sait, c'est que pour le premier week-end des précommandes de l'iPhone SE, eh ben, ça a dépassé les attentes en termes de précommande. Voilà, il y aura 12 à 14 millions d'unités qui, a priori, seront vendues au deuxième trimestre 2020. Et ils attendent également 10 millions d'unités vendues au troisième trimestre 2020. Mais qu'est-ce que ça veut dire, du coup, le fait que le SE se vende mieux que attendu? Eh ben, ça veut dire que potentiellement, ça va faire baisser les commandes de l'iPhone 11 et l'iPhone 11 Pro. Alors pourquoi? Bah, tout simplement, pourquoi les gens vont se reporter sur un iPhone qui coûte moins cher que les flagships d'Apple? C'est que tout simplement, c'est ce qu'on disait, hein, le pouvoir d'achat des personnes vont potentiellement baisser, les gens vont être un peu plus, vont faire plus attention à leurs sous, à leur économie, etc., avec le climat très incertain, le climat économique très incertain, et donc du coup, ils vont potentiellement opter pour l'iPhone qui est moins cher et qui finalement fonctionne très très bien par rapport au flagship. Alors là, je m'adresse pas encore une fois aux fans de tech, etc., ou aux fanboys Apple, je parle des gens normaux. Et nous, on n'est pas des gens tout à fait normaux parce qu'on aime un peu trop la tech, on va dire ça comme ça. Et donc voilà, l'impact que ça peut avoir justement, cette crise sanitaire aussi, c'est que les gens vont adapter leur mode de consommation avec le contexte économique qui arrive. Et donc du coup, ils prévoient également une baisse des envois d'iPhone en deuxième trimestre. En tout cas, leur estimation, ils la baissent de 30% suite aux impacts de la crise sanitaire, parce qu'ils disent que justement, il y aura moins de demandes que prévu. Donc ça, c'est intéressant. En termes de production de l'iPhone 12, ça aussi, c'est important, et je suis sûre que ça vous intéresse encore plus dans la chatroom. Kuo explique justement que Apple a commencé donc son process de vérification de qualité, de qualification des modèles d'iPhone 12, mais il l'a commencé à distance, ce qui n'est pas forcément dans les habitudes d'Apple, et ils ont délégué aussi aux employés localement, et donc du coup, ce sont des changements pour lesquels Apple n'a pas trop l'habitude de gérer, c'est pas les fonctionnements habituels, et ce qui fait que ça va entraîner un délai d'un mois dans la vérification et du test des nouveaux modèles d'iPhone 12. Donc là, on démarre déjà avec un mois de retard en termes de vérification des différents modèles d'iPhone 12 prévus. A priori, il y a 4 modèles de prévus, avec notamment des tailles d'écran différentes. On a notamment le 6.1 pouces, on a le 5.4 pouces, et puis donc ces deux modèles sont prévus pour entrer en production a priori en septembre. Et ensuite, on a également le modèle 6.7, donc le plus grand, qui lui, a priori, rentrerait en production de masse plutôt en octobre. Donc là encore, un certain décalage, parce qu'a priori, le design du 6.7 serait le plus compliqué à gérer. Voilà. Donc ça veut dire potentiellement, encore une fois, c'est une rumeur, ce sont des rumeurs. Ça veut peut-être dire que Apple va annoncer les 4 iPhone 12, les 4 modèles d'iPhone 12 en même temps pour avoir un discours cohérent, une présentation cohérente, mais que les dates vont être décalées, comme ce qui s'était passé d'ailleurs pour l'iPhone X et l'iPhone XR. Rappelez-vous, ils n'étaient pas sortis et ils n'avaient pas été disponibles en même temps. Excusez-moi, il faut que j'arrête de bouger avec ces flous artistiques que le très beau GH5 fait. Mais bon, voilà, il ne faudrait pas que le flou artistique soit sur ma tête pour vous. Et puis on a aussi un autre critère qui pourrait augmenter le délai des modèles d'iPhone 12, et ce critère, c'est lié à l'antenne qui permettrait la capacité 5G. Voilà, et donc là, c'est a priori cette antenne, du coup, il y a des changements qui ont été initiés en avril, ce qui est quand même récent, très 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 récent, puisque c'est ce mois-ci, on est en avril. Et donc du coup, évidemment, ça va potentiellement décaler et impacter la capacité de production. Et donc, a priori, les envois pour les antennes va être baissé de 5 à 10% ou de 15 à 20% pour la disponibilité des iPhones. Donc voilà, il y aura peut-être un stock plus réduit et déjà décalé pour certains modèles. Voilà, à savoir qu'a priori, la rumeur, c'est que les 4 modèles d'iPhone 12 qui sont attendus supporteraient la 5G, la connexion 5G. Donc on va voir. On va voir, encore une fois, ça reste des rumeurs. Et aussi, autre rumeur, pour l'iPhone SE Plus, là aussi, on a une autre rumeur, il sera sûrement décalé jusqu'à la seconde moitié de 2021. 2021. C'est quand même assez loin. Voilà. Alors que normalement, on avait prévu, en tout cas QO, l'analyste avait anticipé plutôt un lancement début 2021. Donc là, a priori, ça serait repoussé à la deuxième moitié de 2021. Voilà. Voilà, vous êtes un petit peu à jour sur les rumeurs d'Apple. On a fait le point. Je vous propose de parler un petit peu quand même de... Hop. Je vous propose de parler un petit peu quand même de notre sponsor, Shadow, que vous connaissez bien, le PC dans le cloud, dont on a pas mal entendu parler la semaine dernière avec l'annonce de Emmanuel Freund qui quitte Shadow. Mais au-delà de ça, on va pas s'arrêter juste à ça. Vous le savez, Shadow, c'est notre sponsor pour le mug, et on vous offre la possibilité de gagner un mois gratuit pour tester en conditions réelles chez vous les capacités de Shadow, c'est-à-dire que vous allez pouvoir utiliser un PC à distance, voilà, bien au froid dans les serveurs de Shadow, pour voir si c'est quelque chose qui vous conviendrait en termes d'usage. Et donc, pour pouvoir gagner un mois gratuit de Shadow, c'est très simple, il suffit de suivre les comptes Naotech et Shadow France sur Twitter et de tweeter un petit message qui est « Je veux gagner un hashtag Shadow PC avec hashtag le mug Naotech pour jouer à ou utiliser, etc. » Et comme ça... vous entrez tout simplement dans la liste des potentiels gagnants. Il y a un gagnant tiré au sort par semaine et il est annoncé et contacté le vendredi. Donc si vous n'avez pas gagné, vous pouvez retenter votre chance la semaine suivante, évidemment. Attention, ne communiquez aucune information personnelle par Twitter. On ne vous demandera rien si c'est vous qui gagnez. On vous contactera par message privé pour vous donner une information. On ne vous demandera pas de fournir des infos à vous. Attention, il y a un compte qui s'appelle Le Mug Naotech qui se fait un peu passer pour nous. Donc à ne pas confondre. Voilà, faites attention à vous. Je vous propose de continuer tout simplement avec la tartine. Il est 8h43 et c'est le moment de la tartine streaming. Et oui, c'est le mercredi, donc on va débriefer un petit peu de l'actualité streaming et elle est plutôt chargée. Aujourd'hui, on va commencer notamment du côté de Netflix qui a partagé certains nombres. Alors, il y a certaines sociétés qui sont touchées négativement, évidemment, par la crise sanitaire, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, les usages changent. Les personnes passent beaucoup plus de temps devant leur écran à streamer du contenu, etc. Et du coup, ce qui veut dire pour Netflix, notamment une augmentation plus supérieure par rapport aux prévisions du nombre d'abonnés pour le premier trimestre 2020. Donc ça, c'est intéressant. Donc, de combien exactement? Alors, ils avaient prévu, au niveau des prédictions, d'avoir 8,2 millions de nouveaux abonnés à Netflix, et ils ont largement battu les attentes, puisqu'ils ont eu 15,77 millions d'utilisateurs en plus au premier trimestre 2020. Donc là, on peut voir un petit peu... tout simplement l'impact, hein. Vous voyez l'énorme bond pour le dernier trimestre 2020, là, enfin le premier trimestre 2020, là, la dernière barre, où on voit 15,8 millions, parce que 15,77, on a arrondi. Donc là, il y a un vrai signe, mais ça ne veut pas dire que c'est une tendance qui va persister. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus s'emballer. Voilà, donc c'est là où ça, c'est assez intéressant. Hein. Il y a une lettre qui a été partagée aux actionnaires, où justement Netflix attend que la consommation et le nombre d'abonnés continuent à croître sur le second trimestre. Mais attention, ça ne veut pas dire que ça va être pérenne, ça ne veut pas dire que ça va continuer. Et donc là, encore une fois, ils mettent en avant le contexte très très incertain de la crise sanitaire du coronavirus, puisqu'en effet, les pays vont commencer à sortir du confinement, ça veut dire potentiellement moins de temps sur les écrans, potentiellement aussi moins de pouvoir d'achat. Encore une fois, il y a pas mal de foyers qui se retrouvent sans revenus. Je vous rappelle que le nombre de chômeurs aux États-Unis a explosé, et donc ça veut dire aussi couper et limiter les dépenses sur les divertissements. C'est les premiers secteurs où on va limiter les dépenses, et donc notamment les abonnements type Netflix qu'on va peut-être arrêter. Donc il y aura sûrement potentiellement un impact lié à la crise qui sera négative prochainement. Voilà, donc ça c'est intéressant parce que du coup Reed Hastings, le CEO, est très conservateur dans ses propos, c'est-à-dire qu'il ne se réjouit pas, en effet, ça sera assez déplacé, il ne se réjouit pas des nombres, et ils disent attention, parce qu'il y a eu une grosse augmentation dans le prix des actions au moment de l'annonce, et après ça a largement baissé, parce qu'en effet le CEO a dit attention, il ne faut pas s'emballer, ça ne veut rien dire pour la suite de l'année, ça ne veut pas dire que c'est une tendance qui va continuer de manière linéaire dans les prochains trimestres, loin de là. Donc voilà, il nous dit justement... parce que là, pour la première fois, ils ont utilisé les mots « guess », donc ils essayent de deviner, entre guillemets, un petit peu les chiffres pour les prévisions des prochains trimestres, parce qu'en fait, le contexte est tellement incertain qu'en fait, ça sert un peu à rien pour l'instant de faire des prédictions, et faut plutôt être assez conservateur. En tout cas, c'est ce qu'ils nous disent. Ils nous confirment par contre que la tendance, évidemment, du divertissement via Internet, etc., va continuer à augmenter dans les 5 prochaines années. Ça ne remet pas en jeu, évidemment, cette grande tendance de fond. Par contre, ça va quand même perturber leur plan en termes de production et de sortie de programmes, puisque certes pour le second trimestre il n'y aura pas vraiment d'impact parce que les programmes ont déjà été tournés, ont déjà été produits et ils sont prêts, en fait, ils sont en termes de finition, montage, emballage, etc., pour pouvoir être diffusé au deuxième trimestre 2020. Par contre, du coup, tout ce qui est production pour l'instant est en pause pour les mois et les quarters suivants. Donc il y aura sûrement des impacts, il y aura notamment moins de contenu original, et donc du coup ils informent qu'ils vont potentiellement plus se reporter sur des licences de films et de séries. Voilà, ils vont faire appel à plutôt des licences existantes pour pouvoir pallier le manque de nouveaux contenus ou de contenus originaux qui n'auraient pas été produits à cause justement de la mise en pause de la production. Ça veut dire aussi qu'ils auront donc plus de cash qui vont justement plus de cash parce qu'ils n'auront pas produit et qui vont réinvestir justement dans ces licences là. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Il n'y aura pas évidemment d'augmentation de prix de l'abonnement. C'est pas quelque chose qui serait acceptable dans le contexte actuel. Ils ont également on en avait parlé au début de la crise, limiter l'usage de la bande passante, puisque ça avait été demandé en Europe notamment, et c'est pas les seuls, puisque YouTube avait fait la même démarche pour soi-disant garantir une bonne qualité de service, on va dire ça comme ça. Maintenant, ils sont en train de travailler évidemment avec les providers internet pour pouvoir revenir à une qualité optimale pour le service Netflix. Et Et ils se sont également engagés à soutenir avec un fonds de 100 millions de dollars les personnes travaillant dans le secteur de la télé et de l'industrie du film, qui sont évidemment durement touchées également par la crise économique et la crise sanitaire, puisqu'ils ne peuvent pas travailler. Et vous savez que c'est aussi une partie des travailleurs qui sont dans des conditions de travail, enfin, des situations d'emploi assez précaires, pas très très sûres. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ils ont eu des très bons chiffres justement pour leur série Tiger King qui a permis de changer un peu les idées de pas mal de personnes. Mais après, pas plus de nouveautés. Reed Hastings en bon joueur a félicité évidemment le lancement de Disney+. Et notamment, évidemment, le nombre impressionnant de nouveaux abonnés après juste un lancement. C'est vrai qu'ils bénéficient évidemment de la connaissance mondiale internationale de Disney, hein, de la marque Disney. Alors, je regarde un petit peu vos commentaires. Ils vont remettre ZOE, ça semble mal parti pour ZOE, hein. Elle est arrêtée, cette série. Je sais que Netflix se fait du souci pour Disney, ben ils ont raison, hein. Il n'y a qu'à voir la renommée de la marque Disney avec rien que le lancement, c'est assez impressionnant. Après, franchement, le catalogue Disney, je le trouve assez inintéressant. Les documentaires datent de je sais pas combien, enfin je sais pas, il y a 10 ans. On a voulu se revoir Avatar avec Jérôme l'autre jour parce qu'on l'a pas vu depuis sa sortie ciné, je pense. Et en fait, il est disponible qu'en français sur Disney. On était là, mais pourquoi? Donc ça nous a fait un peu la même sensation, en tout cas moi pour moi, ça m'a fait un peu la même sensation que les mauvais programmes sur Prime Video, où en fait tu sais jamais si le programme que tu vas vouloir regarder est disponible en version originale ou pas. Et comme on ne regarde pas les programmes doublés en français, on les regarde en version originale, c'est assez pénible et du coup on n'a pas regardé Avatar. Frustration. Donc voilà, enfin, c'est pas très très grave. On enchaîne avec les actus streaming, puisqu'il y a du nouveau okay, aussi du côté de Vudu. Vudu, c'est la plateforme de streaming qui appartenait au passé à Walmart et qu'en fait ils viennent de vendre à la plateforme de vente de tickets de cinéma Fandango, que vous connaissez peut-être pas, mais aux États-Unis c'est quand même plus connu. Voilà, on n'a pas la somme pour la transaction, mais en tout cas ce qu'on sait, c'est que le service vidéo aujourd'hui a 100 millions et peut atteindre 100 millions de devices dans le salon. Donc ça va toucher notamment les smart télé, les players, les lecteurs Blu-ray, les consoles de jeux vidéo, enfin tout ce qui est over the top, les services de streaming direct. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Il y a également les ordinateurs Windows 10, Mac, etc. Et également les devices iOS et Android qui peuvent faire tourner Voodoo. Voilà, l'application Voodoo, justement, elle a été téléchargée 14,5 millions de fois. Et on sent bien que Fandango, qui est évidemment durement touché. Marion ne sait plus parler en français. Bah oui, Aura France, c'est compliqué quand tous les articles sont en anglais, de faire la gymnastique dans ton esprit. J'essaye, mais je réussis pas à chaque fois. Et donc Fandango, qui, je vous le disais, donc est un service de vente de tickets de cinéma, voilà, est durement touché par la crise, puisque de toute façon les cinémas sont fermés. Et donc ils vont essayer justement de se renforcer sur des services qui fonctionnent en temps de confinement et donc pouvoir acheter le service Vudu fait assez sens. Eux, de leur côté, Walmart vont se recentrer sur leur cœur de business qui est la vente, le retail, voilà, pour se renforcer sur leur cœur de business. Et ça faisait plusieurs mois hein, que de toute façon Walmart cherchait à vendre Voodoo, donc c'est pas non plus une surprise, mais c'est assez pertinent dans ce temps actuel en tout cas. Autre information, et là il y a du nouveau du côté de Sonos et Spotify qui chacun lance des nouveaux services. Alors du côté de Sonos, il s'agit d'un service de radio que vous pouvez accéder directement depuis l'application Sonos. C'est la première fois où Sonos se lance dans le contenu direct. Donc ça, c'est assez intéressant. Et en plus, ils vont bénéficier vraiment de l'avoir déjà installé dans l'application. C'est-à-dire que quand vous achetez une enceinte, vous aurez déjà, vous n'aurez pas besoin de connecter un service externe à Sonos, Spotify, Apple Music, etc. Vous aurez directement l'accès au service Sonos Radio qui va vous permettre d'avoir accès tout simplement à avoir des lectures de radio en continu qui va se reposer notamment sur des partenariats avec TuneIn et iHeartRadio qui sont très 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 connus évidemment. Il y a également des partenariats plus locaux avec notamment radio.com aux États-Unis et Global pour la Grande-Bretagne. Mais ce qui est intéressant, c'est que Sonos Radio va également donner accès à du contenu original produit par Sonos. Et c'est la première fois vraiment que Sonos va se lancer dans la production de contenu. Alors ce qui est intéressant, c'est on va pouvoir donc comparer Sonos Sound System, qui est donc leur service de production de contenu, vraiment contenu original, un peu à la radio Apple Beats One. Vous savez, vraiment là où en gros on a la radio Apple, quoi. Et en fait, comment ils ont mis en place ça? C'est qu'en fait, ils ont converti leur magasin, leur flagship à Soho, dans un espace pour enregistrer et produire du contenu. Parce que de toute façon, il est fermé. Donc en fait, ils ont changé le but de ce magasin pour pouvoir le réinvestir dans la production de contenu, ce qui est assez intéressant, bien vu du côté de Sonos. Voilà. Donc du coup, ils vont en effet avoir un programme de 60 minutes qui va permettre de partager donc un programme original. Ils vont avoir également c'est pas des playlists, mais en tout cas des... oui, si, c'est des playlists par des artistes connus. Donc le premier, ça va être Thom Yorke de Radiohead, qui va en gros faire une playlist, agrégé, désolé, j'ai que de l'anglais dans la tête là ce matin, c'est un peu compliqué, agrégé par Thom Yorke de ses inspirations, de ses meilleurs titres, etc. Donc on va rentrer un petit peu dans l'univers de Thom Yorke, ses inspirations, pour pouvoir profiter un petit peu de cette playlist. Donc ça, c'est assez chouette. Et ce ne sera pas le seul artiste, il y a aussi Angel Olsen, JPEG Mafia, Phoebe Bridgers, Jeff Parker de Tortoise, Vagabond, etc. Donc ça, c'est assez sympa, et ça sera donc sorti, donc ça sera une radio qui sera gérée par l'artiste, entre guillemets. Ils vont prendre contrôle, en tout cas, de la radio pendant une heure tous les mercredis, donc avec un artiste différent, et donc il y aura donc de la musique, des commentaires, des artistes dans ce qui les inspire, etc., au quotidien. Et donc ça, c'est assez intéressant, et notamment avec les dernières nouveautés de l'artiste lui-même, pour rester toujours dans l'actualité. Donc ça, c'est assez bien vu, assez ambitieux aussi, hein, comme projet, mais ça sera intéressant à suivre. Et puis il y aura également des radios classiques qui seront supportées par la pub, et où là, justement, Sonos pourra faire des partenariats, mais voilà, c'est assez intéressant, c'est la première fois que Sonos lance dans le contenu, donc à suivre parce que du coup ils vont bénéficier d'un parc d'appareils qui vont pouvoir avoir par défaut le contenu Sonos, à savoir aussi que l'écoute de la radio fait partie de plus de 50% de l'usage global des appareils Sonos, donc du coup de l'avoir par défaut fourni par Sonos, ça peut booster et faciliter l'adoption des produits, déjà, en termes d'expérience, c'est bien, c'est pratique, et en plus, en termes de revenus, ça peut générer une autre source de revenus. Donc ça, c'est assez intéressant. Voilà. Et autre nouveauté, c'est plutôt du côté de Spotify, je me dépêche, il me reste deux articles. Je vais terminer avec celui-là du coup. Du côté de Spotify, où eux, cette fois-ci, ils vont miser sur les podcasts. Alors, les podcasts, c'est pas le meilleur moment actuellement, puisque justement, avec le confinement, on a vu une baisse constante la consommation de podcasts, mais c'était déjà prévu, hein. Spotify avait déjà prévu d'investir dans les podcasts, ils avaient fait plusieurs rachats, de sociétés qui créent des podcasts. Ils avaient intégré les podcasts sur la plateforme. Maintenant, on y a accès de plus en plus facilement sur l'accueil. Ah non, alors ça, c'est... Ils ont encore changé. Il y a des A/B tests. Ah oui, non, voilà. Depuis la bibliothèque, on y accède de plus en plus facilement. Maintenant, on a les tabs musique, podcast, donc plus facile à y accéder. Voilà, on sent que l'équipe Spotify est vraiment concentrée sur développer l'adoption des podcasts. Et là, du coup, dans ce sens-là, ils vont proposer dans certains pays, donc dans 6 pays, aux États-Unis, en Allemagne, en Suède, en Grande-Bretagne, au Mexique et au Brésil, 3 playlists qui vont être gérées localement, c'est-à-dire chaque pays va avoir des personnes qui vont gérer la curation de ces playlists. Les playlists sont... Alors attendez que je trouve les noms. Voilà, on va avoir Best Podcast of the Week. Donc ça, ça fait penser un petit peu au Weekly Digest ou voilà, je vais y arriver. Ces playlists que Spotify avait sorti il y a quelques années qui avaient boosté l'usage et l'adoption de la plateforme. Rappelez-vous, on en avait beaucoup parlé, les weekly playlists, etc. Alors là, c'était un peu différent parce que les weekly playlists étaient aussi avec de l'algorithme qui allait se baser sur vos préférences et vous proposer des titres et des nouveautés en accord avec vos préférences. Voilà, là, ça va être de la curation humaine et locale, puisque chaque pays va avoir une équipe qui va faire la curation de ces 3 playlists. Et donc, la première, comme je disais, c'est Podcast of the Week. La seconde, c'est Brain Snacks. Et la troisième, c'est Crime Scene. Voilà, donc on aura ces trois playlists et qui va du coup essayer de vous faire découvrir le meilleur contenu dans ces trois thématiques. Donc évidemment, ça va permettre une meilleure adoption. Pour ceux qui ne sont pas très familiers avec les podcasts, ça va être une bonne manière de démarrer, tout simplement, et de trouver des podcasts qui peuvent vous intéresser. Parce que c'est pas forcément, je trouve que c'est un petit peu ça la barrière à l'adoption, je trouve, des podcasts, c'est de découvrir du contenu qui peut potentiellement vous plaire. Et donc ça, le Best Podcast of the Week, potentiellement, ça peut vraiment vous aider. Et si vous avez une thématique spécifique que vous aimez bien, Brain Snacks et Crime Scene, ça peut être vraiment assez intéressant. Et donc du coup, ça va vraiment, le but, c'est de booster l'adoption. Donc voilà, ça va pas venir en France directement. Il va falloir prendre un peu son mal en patience. On verra si ça arrive prochainement. On vous tiendra au courant. Voilà. Voilà pour les news streaming. Comme je vous disais, c'était assez chargé ce matin. Finalement, on a pas mal de news en ce moment. Je vous propose d'enchaîner avec quelques minutes de CornFac. Et voilà, c'est la fin de l'émission. J'espère que ça vous a plu. Il est 9h02, j'ai 2 minutes de plus. Je souhaite une excellente journée à ceux qui doivent nous quitter. Et je vous propose du coup d'enchaîner avec les questions. Je crois qu'il n'y a pas de questions Platinium. Donc du coup, vous pouvez commencer directement avec vos questions. Bonne journée Damien, tu files en réunion, bah, bonne réunion à toi. Marion, tu travailles avec quel iPad ? Je ne travaille pas avec un iPad au quotidien, je travaille juste sur mon MacBook Pro. Mais là, pour le mug, j'utilise je crois que c'est le premier iPad Pro. Donc le vieux là, celui qui a 3 ans, qui était le moins bon deal... Le très mauvais iPad, enfin l'iPad à ne pas acheter, qui était hors de prix et dont je n'utilise absolument pas les fonctionnalités pro. Donc très mauvais investissement de ma part, mais bon, c'est comme ça. Mais voilà, il tient super bien le coup et c'est vrai que j'en ai pas encore changé. Voilà. Alors je lis vos questions. Je vais certainement me faire des ennemis, mais pour moi, l'app qui m'a conseillé de bien meilleurs podcasts selon mes goûts, c'est Spotify. Bah tu vois, voilà, Antonin, justement, c'est la valeur ajoutée de Spotify là-dessus. Hein. C'est de t'aider à découvrir du contenu qui peut te plaire. C'est un peu leur force. Mais ce qui est intéressant, la différence, et ça, c'est ça que j'ai pas dit tout à l'heure, ça m'est sorti de l'esprit, c'est que on peut comparer ça aussi avec les playlists, la curation du côté d'Apple. Mais le problème, c'est que Spotify produit aussi des podcasts en lui-même. Donc là, il y a un peu un conflit d'intérêt, alors qu'Apple ne le fait pas, hein, ne produit pas des podcasts. Spotify produit à des sociétés qui sont faites pour produire, puisqu'ils les ont achetés, des podcasts. Donc, est-ce que ça veut dire que dans ces trois playlists, ils vont potentiellement plus pousser leurs podcasts produits par Spotify? Il y a un petit conflit d'intérêts un peu dangereux. Ils disent évidemment que non, que la qualité prime sur la promotion de leur propre contenu, mais en même temps, est-ce qu'ils auraient acheté des sociétés qui créent des podcasts s'ils n'avaient pas eu confiance dans la qualité? J'en sais rien. Bref, il y a un petit conflit d'intérêts un petit peu dangereux à voir. Marion, que penses-tu de tous ces classiques censurés par Disney? Bah, je trouve ça triste. Voilà. En 2020, censurer les fesses d'Ari Lana, c'est... Franchement, c'est des fesses, quoi. Enfin, bref. C'est... voilà. Bon, écoutez, on est en 2020, on est un peu prude. C'est comme ça, puis c'est une plateforme de streaming familiale, mais bon, je me rappelle pas que ça m'ait choqué de voir une paire de fesses quand j'étais petite, et je pense qu'au contraire, ça permet d'enlever un petit peu toute cette sacralisation du corps, faut pas montrer des seins, faut pas montrer de fesses, bref, on est tous humains, on a tous une paire de seins, une paire de fesses, etc., voilà, bref. C'est Disney. Bonjour Marion, un mot sur la levée d'Alan. Bah écoute Rémi, on a eu un timing, on a eu de la chance, hein. On avait déjà envisagé de faire une levée de fonds depuis pas mal de temps avant que la crise sanitaire se déclenche pour d'autres raisons. Et je pense qu'on l'a fait justement bon moment puisque le contexte économique ne sera vraiment, vraiment, vraiment pas favorable au levée de fonds. Et c'est le problème pour d'autres startups qui vont se retrouver dans des situations un peu compliquées. En tout cas, pour Alan, moi, je suis ravie. On va pouvoir continuer à se développer. Et surtout, le contexte montre bien qu'une startup dans la santé, il y a vraiment un potentiel incroyable de pouvoir soutenir les personnes au quotidien pour être plus en contrôle de leur santé, vraiment être, avoir un accès plus facile sur ses propres données, avoir des remboursements qui sont plus rapides aussi. Ça, il y a une vraie aide aussi, hein, sur le fait que vous n'attendez pas 3 mois avant d'être remboursé d'un soin. On va vraiment travailler dur pour que ça soit de plus en plus rapide. Enfin, le but, c'est de viser l'instantanéité, même si on n'y est pas encore, évidemment, parce qu'il y a plein de contraintes avec les différents acteurs de services de santé. Mais on travaille très, très dur pour justement révolutionner un petit peu le secteur sur différents pans de la santé et être un partenaire dans la santé. Donc, c'est très, très, très excitant. Cette période, évidemment, apporte son lot de difficultés, mais montre aussi qu'il y a des vrais challenges et que c'est le bon moment pour perturber un petit peu le secteur pour la... Enfin, positivement, quoi. Donc, je ne sais pas après si tu as des questions spécifiques, mais voilà. Et pour l'info, pour ceux qui ne savent pas, je suis product designer chez Alan. Alan, qui est une assurance santé, la première assurance santé agréée depuis 30 ans et qui a pour ambition de ne pas se limiter à l'assurance santé, mais d'être un vrai partenaire dans la santé pour les personnes, pour les sociétés et pour les personnes. Voilà. Encore heureux qu'il y ait des films comme Nicky Larson où il y a du vrai nu sans tabou. L'expérience Alan est vraiment excellente, j'en suis ravie. Bah écoute, Dagageante, merci beaucoup pour ton commentaire, ça sera transmis à l'équipe. Et puis si à un moment donné, t'as des questions, des choses que tu comprends pas, de toute façon, on sera là pour y répondre et pour s'améliorer. On peut toujours faire mieux. J'ai essayé de faire la pub à l'âne sur Twitter à ceux qui cherchaient une mutuelle. Ben merci, Vaea. Alors, pour petite nuance, on n'est pas une mutuelle, on est une assurance. Légalement, c'est pas la même chose, mais voilà. Tu peux soit avoir une mutuelle santé, soit avoir une assurance santé. Un petit code promo Alan. Bah écoute Laurent, non, on fait pas de code. Ce que je peux te dire, c'est que ceux qui sont déjà couverts par Alan peuvent te faire profiter d'une offre de parrainage. Donc trouve quelqu'un qui est couvert par Alan. si tu veux, je sais pas si moi je peux te partager mon code, mais voilà, si ça t'intéresse, n'hésite pas à me contacter par DM, soit sur Slack, soit sur Twitter. Je te partagerai, voilà, ou même je partagerai sur Twitter si vous voulez, pour ceux qui sont intéressés. Voilà. Je sais pas ce que ça, je me rappelle pas ce que ça vous fait le code parrainage. Honte à moi. Marion, il est 9h10. Oui, c'est noté. Mais comme j'ai commencé tard le corn fac, le placement Alan n'est pas rémunéré. Hein. Oui, tout à fait. On n'est pas rémunéré par Alan. Je suis rémunérée parce que je bosse pour eux. Mais on n'est pas rémunéré. Naotech n'est pas rémunéré par Alan pour faire de la pub. J'ai juste répondu à des questions. Alan est cité en exemple, notamment dans les startups de certains ministères. Bah écoute, c'est flatteur, mais encore une fois, on est tout à fait conscient aussi qu'on a une belle marge de manœuvre pour s'améliorer. On ne va pas s'arrêter là et il faut pas s'endormir sur nos lauriers. C'est le plus dangereux. Donc voilà, on travaille dur, on vous concocte plein de choses du côté d'Alan pour vous améliorer. Et pour ceux qui souhaitent découvrir, vous pouvez aussi créer un compte. Bah, là, j'en profite du coup pour faire un peu la pub, hein, mais comme vous avez l'air d'être intéressé. Pour information, on a ouvert Alan gratuitement pour les 50 000 premiers inscrits. Donc vous pouvez tout à fait créer votre compte sans souscrire à une offre de couverture santé. Donc, vous pouvez juste créer votre compte et vous allez avoir accès à l'application Alan, ce qui est le plus intéressant. Et en fait, dans l'application Alan, vous aurez droit à pas mal de petites fonctionnalités. Donc, vous aurez accès à notre information mise à jour régulièrement sur la situation au niveau du coronavirus, que ce soit des conseils de santé, des conseils pour gérer le stress, l'accès à 2 mois de méditation offerts avec Headspace, un de nos partenaires. Vous aurez également une consultation de télémédecine offerte si elle n'est pas en lien avec le coronavirus, puisque si c'est en lien avec le coronavirus, c'est déjà remboursé par l'assurance santé. Mais voilà, comme ça vous fait découvrir le service et vous n'avez pas besoin de vous déplacer également. Donc ça, c'est avec notre partenaire Livy. Puis vous avez droit aussi, enfin vous allez pouvoir découvrir d'autres fonctionnalités, notamment pouvoir garder vos médecins favoris directement dans l'application facilement accessible, chercher des médecins et savoir à peu près combien vous serez remboursé, parce qu'on a cette information et on vous la met à disposition, même si vous n'êtes pas couvert chez Alan. Donc voilà, vous avez des petites fonctionnalités comme ça qui peuvent vous aider au quotidien. Vous aurez aussi accès à notre équipe Care si vous avez des questions. Elle vous répondra du mieux qu'elle peut. Donc, si ça vous intéresse et que vous souhaitez découvrir Alan, c'est peut-être le bon moment justement. Le petit service s'appelle Coup de pouce et c'est juste une création de compte. Donc, allez-y si vous êtes intéressé. Voilà, et puis vous pourrez m'en dire des nouvelles. Ça m'intéresse vraiment, n'hésitez pas. On peut même prévoir des petits entretiens, pas forcément avec moi si vous voulez pas me parler, mais j'ai des collègues super qui peuvent échanger avec vous pour recueillir vos retours. Jérôme, elle te fait perdre de l'argent en faisant des placements gratuits. Ça me fait penser à la version mutuelle des néobanques. Oui, bah c'est vrai qu'il y a cette vision un peu moderne de secteurs qui sont un petit peu vieux jeu et qu'on ou le pour lequel il y a plein de challenges et de choses, de belles opportunités pour simplifier la vie de tout le monde et notamment de vous et moi dans notre quotidien, quoi. De pouvoir suivre facilement ses dépenses ou ses remboursements, etc. C'est quand même une tranquillité d'esprit et on a l'impression d'être maître de ses propres informations. Dans le cas des néobanques, de son argent, parce qu'on n'avait pas vraiment cette impression-là avant. Et dans le cas de l'assurance santé, ben, le but, c'est de vous sentir maître de votre santé et d'avoir une meilleure compréhension de ce qui se passe et de pouvoir mieux anticiper aussi. Et pour ça, le but, c'est vraiment qu'on vous aide, quoi, qu'on vous accompagne au quotidien. Bref, je fais que parler à Dallan. Il est 9h14 et j'ai pas l'impression qu'il y a eu d'autres questions. Alors, je lis un petit peu vos commentaires. Headspace a des designers de folie. Ouais, carrément, Rémi, ouais. Alors, je regarde. Avec plaisir pour les retours. Bah, écoute, dégageante, avec plaisir. Le design et la charte rédactionnelle sont extrêmement clairs. Chapeau. Merci, merci. Je lis un petit peu. Marion veut battre le record du plus long, le mug. Bon, mais écoutez, j'ai l'impression qu'il n'y a pas plus de questions. Le mail pour rejoindre le Slack est toujours valable après 3 mois. Matt, il n'y a pas de péremption, de date de péremption pour le mail d'invitation au Slack. Le seul cas où il ne sera plus valable, c'est uniquement si tu arrêtes ton don et que du coup, bah, je te le rappelle par mail en disant attention, on supprimera ton accès Slack. Et à ce moment-là, l'invitation ne sera plus facile, ne sera plus valide, pardon. Mais à mise à part ça, il n'y a pas de date de péremption pour le mail d'invitation. Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Encore une fois, c'était un plaisir de vous retrouver ce matin. Je vous souhaite une excellente semaine. N'oubliez pas, rendez-vous à 14h avec le live Naotech Coffee à 14h aujourd'hui. Et puis demain matin, vous retrouverez Guillaume pour vous débriefer de l'ActuTech. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt. Bye bye!